Radio Django. Vivre à Lausanne.
Nous avons pris de bonnes habitudes, Fabio, de feuilleter sur nos ondes les éditions du magazine Moins, le journal roman d'écologie politique. Il s'agit aujourd'hui de parler du numéro 29 du mois de juin et du mois de juillet, donc 2017. Fabio, tu as invité un des rédacteurs pour le parcourir avec nous, Mathieu Glaire. Bonsoir d'ailleurs.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django.
Un plaisir d'être là.
Alors on va attaquer directement ce numéro 29 de Moins. On s'y plonge avec toi pour donner envie à nos auditeurs de s'y plonger aussi. Alors on a fait la remarque qu'il y a plusieurs articles qui sont consacrés ou dans lesquels on parle de Ivan Illich.
Oui, c'est un peu un hasard en fait.
On dit en deux mots qui c'est Ivan Illich.
Oui, alors c'est très difficile de le définir, c'est une personne assez inclassable,
complexe.
Qui est en tout cas née en Autriche dans les années 20, 1926 si je me rappelle bien, qui vient d'une famille entre autres en partie juive, en partie croate, en partie autrichienne, enfin un mélange comme le vieux monde c'est si bien en faire, qui s'intéressait à la prêtrise, qui a été ordonné prêtre par l'Église catholique au Vatican, qui est parti aux États-Unis, qui s'est intéressé aux portoricains, en fait, qui a demandé à travailler dans des paroisses de New York avec les portoricains dont il était frappé par la foi et par la joie de vivre. Et puis petit à petit, au contact de populations différentes, il est devenu quelqu'un en fait de très critique vis-à-vis du monde moderne, de la technologie, etc. Il s'est installé au Mexique où il a fondé un centre, le CIDOC, qui est devenu une sorte de pôle de réflexion internationale sur la critique de la modernité, etc. Et il a écrit plusieurs ouvrages qui ont été passablement lus et discutés, surtout dans les années 70. Tu t'en souviens probablement plus que moi.
Moi qui étais déjà né. Notamment, oui, sur l'école.
Voilà, une société sans école, une critique radicale de l'école, la némésis médicale, une critique radicale du système de santé. Donc c'est quelqu'un qui est en fait un des grands précurseurs de l'écologie politique, quelqu'un auquel on se réfère toujours aujourd'hui, en particulier le mouvement de la décroissance, lui doit beaucoup. Donc si je dis que c'est un hasard qu'on le cite beaucoup dans le journal, c'est évidemment pas un hasard dans le sens que c'est une des personnes clés du mouvement. C'est un hasard simplement dans le sens que normalement, voilà, il y a toujours peut-être un ou deux articles dans lesquels il est mentionné. Et puis là, ben voilà, il se trouve qu'il y a cinq ou six pages qui lui sont quasiment consacrées, mais c'était pas recherché.
Ouais, merci beaucoup pour cette présentation d'Ivan Illich. Ça valait quand même la peine depuis le temps qu'on lit Moins et puis qu'on lit de Ivan Illich. Ça fait peut-être envie aussi à des personnes de reprendre ses écrits. Alors, on commence à page 5. Tu signes un article « Généralisons une vitesse faible et conviviale ». En prenant les textes d'Ivan Illich et notamment de Jean-Pierre Dupuis dans les années 70 sur la façon dont nous nous transportons.
Oui, alors c'est un article en fait qui a été prévu un peu tardivement. En fait, sur la page de gauche, nous avons un article de Jean-Michel Corajou, qui est l'animateur du cercle des lecteurs d'Ivan Illich ici à Lausanne, qui est une personne qui a connu Ivan Illich et qui anime des réflexions, des ateliers sur Ivan Illich, et qui nous fait depuis quelques numéros des articles pour un petit peu vulgariser, disons, la pensée d'Ivan Illich, qui n'est pas toujours simple à comprendre.
Et il est très vulgarisant cet article sur les outils.
Alors ça dépend, c'est assez rigolo parce que ça dépend vraiment beaucoup des articles que Jean-Michel nous fait. Il y en a certains qu'on se demande si ça c'est vulgarisé, qu'est-ce que doit être l'original ?
Je l'ai compris, donc ça signifie qu'il a bien
celui-là,
vulgarisé.
Celui-là, effectivement, il est plutôt atteignable, je crois, enfin compréhensible par tout le monde. Donc il parle de la convivialité, donc la convivialité qui est un des grands intérêts d'Illich, d'essayer de travailler sur des outils conviviaux, des technologies relativement simples qui vont permettre aux gens d'être véritablement autonomes par rapport aux technologies actuelles. Ben, pour faire en deux mots, par exemple, un téléphone portable, vous avez besoin de métal qu'on va chercher en Afrique, qu'on va transformer avec de l'énergie qui vient d'ailleurs, de métaux rares, etc. Donc pour utiliser en fait un téléphone portable, on est dépendant d'une immense infrastructure, alors que voilà, écrire une lettre, ça peut être quelque chose de plus simple. Donc on a cet article sur les outils conviviaux à partir de la pensée d'Ivan Illich.
Et il y a, excuse-moi, mais il y a des articles, des outils qui ne deviennent plus conviviaux. Parce que justement, ils prennent une telle importance et ils demandent une telle énergie, que ce soit dans la construction de l'outil ou bien dans l'énergie des personnes pour s'y mettre, que pour finir, ce n'est plus des outils conviviaux. Là, il fait la différence, par exemple, entre le vélo et la voiture.
Voilà.
Le vélo, c'est simple.
Alors c'est sûr qu'avec une voiture, eh bien, on va plus vite, mais pour pouvoir utiliser une voiture, on a besoin d'une énorme infrastructure pour fabriquer les voitures, pour fabriquer le pétrole, pour amener le pétrole chez nous, construire des routes, toutes des infrastructures qui empêchent d'autres déplacements. Par exemple, quand vous vous promenez en ville, eh bien, vous vous retrouvez handicapé dans une marche. Votre marche qui ne gêne personne se retrouve handicapée par les gens qui vont plus vite. Donc c'est ça qu'on appelle effectivement cette notion de convivialité, aussi cette notion de seuil qui est assez chère à Illich. À partir d'un certain seuil, à partir d'une certaine quantité d'énergie, à partir d'une certaine vitesse, on se met soit à perdre nous-mêmes du temps, soit à faire perdre du temps aux autres pour nous pouvoir en gagner. On construit un aéroport, ça permet à quelques personnes sur Terre de se déplacer beaucoup plus vite, mais tous les gens qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion, ils doivent par exemple contourner tout un aéroport pour se rendre de chez eux à leur travail ou chez leur grand-mère, tout en étant en plus assaillis par le bruit, par la pollution, etc.
Et vélo et voiture, on passe à la page, ça c'est sur la page de gauche, et puis sur la page de droite, c'est toi qui signes, généralisons, je disais tout à l'heure, une vitesse faible et...
Convivial. Oui, convivial. Alors, c'était l'idée de signaler un élément de la réflexion d'Illich et de Jean-Pierre Dupuis, qui est donc un ami à Illich, qui vit également au Mexique. C'est celle de la vitesse généralisée. Donc, quand on parle de vitesse de déplacement, on divise le temps, la distance parcourue par le temps. Je fais 100 km/h, ça veut dire que je prends une heure pour faire 100 km. Et en général, la voiture va plus vite que le vélo, évidemment, ou la marche à pied. Sauf qu'on oublie en fait de calculer certains éléments qui sont le temps et l'argent qui est nécessaire pour rendre ce déplacement possible. Donc Illich et Dupuis se sont amusés à calculer le temps qu'il est véritablement nécessaire pour se déplacer en payant sa voiture. Donc il faut travailler pour payer sa voiture, pour payer l'essence. Ensuite, il y a aussi
les impôts
qu'on paye pour les routes.
On travaille pour payer ça.
Il faudrait pouvoir calculer aussi les problèmes de santé qui sont générés par la voiture, par la pollution, et puis qu'on paye aussi par nos impôts pour nos assurances sociales ou maladies, etc. Et en fait, à l'époque, ils avaient fait les calculs pour les années 70 aux États-Unis, et ils étaient arrivés au fait que la vitesse généralisée de la voiture était de 6 km/h. Donc en fait, il fallait 6 heures.
Papier, hein.
Voilà, il fallait en une heure, on parcourt 6 km si on comptait tout. Donc à peine plus vite que la marche à pied, et surtout beaucoup plus lentement que le vélo. Alors on a repris un petit peu cette idée pour faire quelques calculs sur la Suisse. Et puis on montre que les choses ont légèrement changé, mais ça nous permet de faire une réflexion un peu critique sur la voiture.
Mais heureusement que même si la réflexion reste, on continue à l'avoir, tu commences le deuxième paragraphe en disant ce raisonnement a bien sûr des limites.
Oui, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça, mais c'est surtout pour nous interpeller.
Absolument. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on dit aussi que les riches, ils voyagent beaucoup plus rapidement que les pauvres. Donc c'est encore une histoire de classe.
Hein? Bien sûr.
Parce que les riches, ils gagnent beaucoup plus vite l'argent qu'ils vont, comme tu disais tout à l'heure, le jeter, le mettre à disposition de la voiture, l'achat de la voiture, etc. etc. Donc c'est encore une histoire de riches et de pauvres. On trouve aussi un thème qui est très cher à Illich,
qui est celui de réfléchir à des systèmes qui soient égalitaires, qui ne permettent pas à certaines personnes d'avoir accès à beaucoup de choses et à d'autres d'en être privées. Donc c'est ça aussi les outils conviviaux, c'est des outils qui ne vont pas empêcher d'autres personnes de bénéficier de leurs services.
Bien sûr. Et là, on saute à la page 28, où tu recueilles l'avis de 4 médecins sur toute une série de thèmes lancé par Illich dans les années 70, notamment dans Némésis médical, qui était publié en 75. Le titre, c'est « Contre-productif, nos systèmes de santé modernes ». point d'interrogation, je l'ai mal dit, mais il y a un point d'interrogation.
On le sent.
On le sent. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux pages qui sont très intenses par l'avis de des médecins?
Alors, on pourrait en dire beaucoup de choses, évidemment. J'ai combien de temps? J'ai une heure d'antenne, c'est ça?
Oui, exactement. Je remets maintenant, pourquoi pas.
Donc, d'abord, ce débat, je me permets de rectifier légèrement ce que tu as dit. Ça ne parle pas de plein de thèmes, ça parle de la santé.
La santé.
Puisque Ivan Illich a abordé effectivement beaucoup de thèmes. Là, c'est vraiment un débat qui se centre sur la réflexion d'Ivan Illich sur la santé, donc en particulier sur son ouvrage Némésis médical, publié en 1975, dans lequel il propose simplement l'idée comme quoi le système médical de santé, enfin, les systèmes médicaux de santé modernes, alors qu'on a l'impression qu'ils nous apportent beaucoup, qu'ils nous allongent notre temps de vie, qu'ils peuvent nous permettre de vivre mieux et plus longtemps, en réalité, c'est le contraire qui se passe. En fait, il émet l'idée que, en fait, on nous prive de notre santé, on remet notre santé dans les mains du corps médical, et puis que du coup, à travers aussi la peur de la mort, on n'a plus la force de prendre notre santé entre nos mains. Et alors, du coup, on a des vies qui sont peut-être prolongées de quelques années, mais à quel prix ? À un prix déjà qui est pour nous. On a beaucoup de gens qui sont en souffrance, qui ne maîtrisent plus leur santé, qui ne maîtrisent plus leur vie. Et puis, un coût qui se reporte aussi à l'étranger, puisque nos infrastructures sont financées par des ponctions sur les pays du Sud, sur l'énergie qui est nécessaire pour faire tourner nos hôpitaux, qui génèrent des pollutions, etc. Donc, on a interrogé des médecins. Alors, engagés, ce n'est pas monsieur et madame médecin n'importe qui, c'est des médecins qui ont une réflexion déjà passablement critique sur leur métier. Et puis, on avait envie de les faire réagir, voilà, 40 ans après.
Sur les thèses, sur
certaines
thèses.
Est-ce que voilà, c'est toujours d'actualité ou pas?
Oui, et certaines, pour eux, elles sont toujours d'actualité, certaines un petit peu moins, mais là, on rentre un peu dans les considérations par rapport à la personnalité d'Ivan Illich, son côté religieux peut-être, etc. Bref.
Oui, il y a un médecin surtout sur les quatre. Il y a une personne qui considère principalement que les thèses d'Ivan Illich ne sont plus d'actualité, et puis les trois autres qui considèrent qu'elles sont encore tout à fait d'actualité avec certaines petites modifications dues au changement de ces dernières années.
Voilà, alors ça c'était « Contre-productif nos systèmes de santé modernes », page 28-29. On se lance un petit coup dans le dossier du mois.
On va lancer quelques pavés, c'est ça?
Quelques pavés, d'accord. Où ça? Hambourg.
Allons à Hambourg,
Allons à Hambourg. Alors oui, on rentre directement dans le vif du sujet. Le G20, il va bientôt avoir lieu à Hambourg, 6 et 7 juillet, quelque chose comme ça. Donc ça va attirer beaucoup de chefs d'État, mais aussi beaucoup de personnes qui vont faire des contre-sommets. Et les articles... Au-delà du fait de présenter ce que c'est historiquement, ce que c'est, d'où vient l'idée du G8 et G20, etc. Un bel article signé par Ignacio Ramone, ancien directeur du Monde diplomatique. Moi, se lance un peu dans l'idée de dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce sommet. Est-ce qu'on est dedans et puis on propose d'autres choses directement à Hambourg? Certains disent non, on fait quelque chose, c'est mieux de ne pas aller là-bas, c'est de faire des choses peut-être ailleurs, en fait, d'avoir toujours une action alternative, mais qui peut être là-bas ou ailleurs. Et il y a aussi quelques discussions sur la violence.
Oui, effectivement, il y a une question qui est vraiment très intéressante, c'est celle de la manière de résister, la manière de lutter. Aujourd'hui, je pense que dans les mouvements écologistes, mais aussi les mouvements sociaux, il y a quand même une large dominance pour dire qu'il faut plutôt participer, il faut avoir des actions très symboliques, mais ne surtout pas utiliser aucune forme de violence. Et puis, on peut se poser la question, quand on voit effectivement les résultats de l'évolution du monde ces 10-20 dernières années, où voilà, l'empreinte écologique continue à augmenter, que les inégalités continuent à augmenter. On peut se demander si certaines formes d'action que certains peuvent ressentir comme violentes, alors on n'a jamais effectivement défendu la violence contre les personnes, ça c'est en tout cas clair, que c'est une limite qui nous semble absolument infranchissable.
L'idée gandhienne.
Par contre, certains dégâts par rapport à briser la vitrine d'une multinationale, est-ce que c'est vraiment violent par rapport aux dégâts réels que fait cette multinationale?
Absolument.
Donc voilà, on a voulu effectivement essayer de proposer des choses un petit peu différentes, une vision un peu différente des Black Blocs, par exemple, on parle beaucoup.
Très intéressant. Voilà. Très intéressant, parce que justement, parce qu'on les voit sous une autre... moi, je les ai toujours vus un peu sous une autre forme que celle donnée par la presse. Deux pages sur les Black Blocs, effectivement, par deux rédacteurs de moi. c'est ça ?
Oui, par deux rédacteurs de moi qui ont mené l'enquête, mais qui ont interviewé deux personnes très intéressantes. Une première qui est un militant et qui est un membre des Black Blocs, donc ça semblait assez évident d'essayer de donner la parole à ces personnes. Et puis une autre personne qui est un universitaire un peu particulier, un universitaire anarchiste spécialiste des Black Blocs, ce qui permet de donner effectivement
une autre lumière
assez intéressante sur ce mouvement.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce dossier ?
Ou alors on peut dire plein de choses, mais effectivement, je crois que on a essayé de faire, en même temps, de faire effectivement un petit historique, d'essayer de voir d'où viennent ces mouvements. On se rappelle des mouvements et des violences à Seattle en 99, de Gênes, et puis de la mort d'un militant à Gênes, etc. Donc de rappeler tout ça, essayer de comprendre d'où viennent ces mouvements.
C'est sous Résistance sans résilience, page 16, où il y a un peu toutes ces historiques-là, jusqu'à...
Voilà, tout un grand entretien avec Olivier de Marcellus, qui est un militant historique de ce genre de mouvement, qui permet un peu de comprendre ce qui se passe en Suisse par rapport à cette résistance à la mondialisation néolibérale. Donc voilà, c'est un dossier qui est assez généraliste, qui propose des approches différentes pour se demander, voilà, est-ce qu'il faut aller à Hambourg pour contre-manifester ? Est-ce qu'il vaut mieux rester à la maison et faire autre chose ? Est-ce qu'il vaut mieux venir parler à Pôle Sud ? Voilà, la question est ouverte.
Ça, c'est toujours bien. Et puis, vous signez la rédaction de moi, s'armer d'audace et d'imagination contre leur arrogance prédatrice, bien sûr, l'arrogance des grands chefs de ce monde qui se trouvent à Hambourg avec des idées assez sympas. Enfin, tourner en dérision quand même. Tourner en dérision, c'est quelque chose qui reste toujours d'actualité.
Oui, la dérision.
Au-delà des actions concrètes, qu'elles puissent être violentes, non violentes ou...
Voilà, il faut rester actif, c'est sûr, mais la dérision, l'ironie, ça permet parfois de désamorcer, de faire tomber ces grandes personnes de leur piédestal sur lesquelles finalement personne ne les a hissées.
Oui, c'est bien dit, elles tomberont un jour, c'est ça ?
Espérons.
Et puis bon, violence, on parlait de la violence, etc. Et voilà, allez, comme ça on finit cette rapide lecture en parlant de Chaïm Nissim, qui était quand même un militant... anti-nucléaire notamment, et qui avait pris qui avait fait un attentat contre une centrale nucléaire on est en plein dans les histoires d'actions violentes pour résister.
Oui, d'ailleurs il était à Pôle Sud il n'y a pas très longtemps, oui. On avait organisé un débat une soirée plutôt avec le ROC ici à Pôle Sud sur l'utilisation de la violence dans les mouvements écologiques.
Réseau d'objection de croissance.
Il était présent, voilà. Et donc voilà, c'est une personnalité très forte, très, très particulière, très sensible, quelqu'un de très impressionnant que nous avons perdu. Et donc on lui a rendu un petit hommage dans le journal.
Oui. Voilà, donc ces dossiers, ces articles qui font partie de ce nouveau numéro 29 du magazine Moi, Chaïm Nissim, la mobilité, la santé et le dossier autour du G20. Merci beaucoup Mathieu Clerc.
C'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Un plaisir, on vous retrouve à la rentrée après l'été.
Très volontiers.
Avec plaisir pour le numéro 30, si mon calcul est juste, pour le mois de août et septembre. On peut vous rappeler encore que le magazine Moi, dont on parlait ce soir, est à retrouver dans plusieurs kiosques de Suisse romande au prix de 5 francs ou dans plusieurs lieux collectifs à un prix libre. Et puis, vous pouvez également, de manière personnelle, vous abonner pour recevoir directement chez vous ce magazine Moi, qu'on rappelle, qui n'a aucun apport publicitaire et toutes les contributions sont bénévoles. Encore un dernier mot, si vous souhaitez donner un coup de main pour le prochain numéro du magazine Moins. La mise sous pli aura lieu à Vevey, ce sera le 29 juin, n'est-ce pas Mathieu Clerc ?
Oui, le 29 juin, dès 10h, rue des Deux Marchés 23, premier étage, c'est toujours un moment sympa et convivial.
Avec l'apéro, j'imagine.
Juillet.
Oui, juillet.
Pardon. Dès 10h.
Juillet, parfait. Voilà, 29 juillet, au milieu des vacances. Une inscription est demandée, si c'est possible, à info@htmoins.ch. Merci beaucoup, Fabio, pour la lecture de ce magazine.
C'est un plaisir, toujours.
Et merci à Mathieu Clerc pour nous avoir parlé ce soir,
merci
rédacteur à ce magazine. Un sujet sur l'édition 29 de Moins à retrouver sur notre site www.django.fm.